Ce matin, j'ai une parole pour vous en deux temps. En priant, j'ai eu cette pensée très forte qui s'est imposée à moi, avec vraiment un sentiment du cœur de Dieu dans cette parole. La bénédiction de Dieu est sur son peuple. La bénédiction de Dieu est sur cette communauté du Colombier. Ouais, vous pouvez dire amen, ouais. Et la deuxième partie, c'est Dieu va révéler la richesse, le fruit abondant de cette bénédiction. Alors, je pourrais m'arrêter là parce que c'est ce que j'ai reçu. Mais comme je suis un prédicateur, je ne peux pas m'empêcher de creuser les choses dans la parole. Donc, je ne vais pas m'arrêter là. Qu'est-ce que ça veut dire la bénédiction ? Au sens biblique, au sens chrétien, c'est un thème qui traverse toute l'écriture depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, et nous employons dans nos relations les uns avec les autres très souvent l'expression « sois béni » ou « que Dieu te bénisse ». Mais qu'est-ce qu'on entend par là ? Est-ce que ce « sois béni » c'est simplement un souhait ? Nous souhaitons que la personne soit bénie ? Ou c'est un constat ? Tu es béni ? Ou est-ce que c'est autre chose ? Et dans la Genèse, on a des exemples, l'exemple de Jacob qui bénit ses fils, des rois, des prêtres qui bénissent des personnes, une autorité qui bénit une autre, des gens qui sont sous son autorité, sous sa protection, et qui prononcent des paroles de bénédiction. Et là, on a plus un acte qui est posé. C'est une parole acte, que la bénédiction repose sur toi. Et puis aussi, on bénit Dieu. On bénit Dieu. Lorsqu'on chante nos louanges, on l'a fait ce matin, on bénit Dieu en retour de sa bénédiction. Et on trouve, à travers toute l'Écriture, cette idée du peuple de Dieu qui bénit Dieu. Et Paul le fait dans l'introduction de son épître aux Éphésiens, j'ai mis le texte, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Alors c'est l'introduction de l'épître aux Éphésiens, ça laisse présager des choses. Béni soit Dieu, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous sommes un peuple béni en Christ, en Jésus-Christ notre Sauveur. Alors qu'est-ce que c'est la bénédiction ? Alors dans l'Ancien Testament, la racine hébraïque du mot bénédiction, c'est barak. On le retrouve plus dans la Genèse que partout ailleurs. Dans la Genèse, ça apparaît 88 fois, et dans tout le reste de l'Ancien Testament, ça apparaît 310 fois. Donc vous voyez une proportion de cette racine hébraïque de bénédiction dans la Genèse. Mais il y a un passage, c'est celui-là, où on trouve une concentration particulière. Genèse 12, verset 1, c'est cette parole du Seigneur à Abraham. Le Seigneur dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, du lieu de tes origines et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Tous les clans de la terre se béniront par toi. » Et en deux versets, il y a cinq fois le mot, la racine, barak, bénédiction, avec il y a un jeu de mots dans l'hébreu qui nous échappe bien sûr en français, entre Abraham et barak. La première chose que Dieu dit, c'est « je te bénirai ». Si tu passes, « je te bénirai ». C'est Dieu qui bénit Abraham. Et c'est associé à un nom grand. Une expression qu'on trouve souvent par rapport au roi, par rapport au souverain dans l'Ancien Testament, comme dans ce texte que je vous ai mis en bas, c'est de Samuel 7:9. J'ai été avec toi partout où tu as marché, j'ai exterminé tous les ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand, comme le nom des grands qui sont sur la terre. C'est cette parole au roi David. Vous voyez ce lien entre l'appel d'Abraham avec toute la suite de l'histoire qui est marquée aussi. Je rendrai ton nom grand. Et le nom grand qui va se révéler dans l'histoire, c'est celui de David d'abord, mais il y en aura d'autres. Je rendrai ton nom grand. Tout part de cette source, tout part de cette bénédiction de Dieu sur le patriarche. D'où va sortir le peuple choisi ? Donc Dieu bénit Abraham. Alors c'est, je représentais avec une flèche, hein, cette flèche de bénédiction du Seigneur sur Abraham. La deuxième chose, c'est tu seras une bénédiction. Alors le sens exact de l'hébreu est difficile à rendre en français. Vous le trouvez traduit dans la seconde, tu seras une source de bénédiction. Mais ce n'est pas tout à fait ça, ce n'est pas tout à fait précis, ce n'est pas complet. Pour être très précis, il faudrait comprendre que le nom d'Abraham sera évoqué dans les bénédictions. Il va devenir une référence de bénédiction, de la bénédiction de Dieu. Je suis béni comme Abraham. Ou que tu sois béni comme Abraham. On bénit les autres au nom d'Abraham. Parce que la bénédiction qu'on vit est en lien avec cette bénédiction première de Dieu sur Abraham. Donc son nom, Abraham, devient symbole, l'archétype de la bénédiction. Donc c'est ce que j'ai essayé de représenter avec ce deuxième schéma. C'est les autres qui bénissent les autres. Alors il y a un petit décalage dans les lettres, dans les mots. À cause de cette bénédiction de Dieu sur Abraham. La troisième chose qu'on trouve dans ce texte, c'est, si tu passes, « Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. » Ces deux phrases parallèles qui mettent l'accent sur l'action de Dieu à l'égard de ceux qui bénissent ou maudissent Abraham. Il y a un écho des relations des autres par rapport à Abraham dans la relation de Dieu vis-à-vis des autres. Et c'est à cause de cette relation étroite de Dieu avec Abraham, de cette bénédiction de Dieu sur Abraham. Il y a comme un triangle avec les autres. Ce n'est pas lui, Abraham, qui bénit ce qu'il bénisse ou qui maudit ce qu'il maudisse. Vous savez, c'est le œil pour œil, dent pour dent. Mais c'est Dieu. C'est la réponse vient de Dieu. Alors, juste pour préciser, quand il est parlé de maudire ici, il y a un déséquilibre entre ceux qui bénissent et celui qui maudit. Il y a un pluriel et un singulier. Le singulier qui semble indiquer que ceux qui maudissent seront finalement moins nombreux que ceux qui bénissent. Et puis il y a deux mots différents qui sont utilisés. Le mot « maudire » pour parler des autres envers Abraham pourrait être traduit par le mépris. Vous savez, on a un mépris à l'égard des autorités qu'on est censé honorer. Et le maudit, lorsque Dieu maudit en réponse, ces gens qui ont le mépris pour Abraham, c'est un autre mot. C'est un mot qui a un sens juridique. C'est un jugement qui est posé sur celui qui fait le mal. Donc il y a un sens juridique. Et c'est Dieu, lui, qui est le seul juge juste et que rien n'est laissé au hasard, au destin, le juge divin voit. Et Dieu est activement du côté d'Abraham qui est béni de Dieu. Cinquième, je ne sais plus où j'en suis. Vous suivez, moi, pas tout à fait. Toutes les familles seront ou se béniront par toi. Alors là, l'hébreu se complique encore un peu plus. Dans la seconde, vous trouvez « seront bénis en toi » ou « trouveront la bénédiction en toi ». Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un élargissement universel. C'est la bénédiction se répand en Abraham. Abraham est béni de Dieu, la relation entre Dieu et Abraham. Son nom est utilisé par ceux qui sont bénis pour bénir les autres. Donc la relation avec les autres. Et puis ceux qui bénissent Abraham sont bénis de Dieu. Et ainsi, de cette manière-là, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors j'essaie de représenter ça avec les flèches de bénédiction. Voilà, c'est cette bénédiction de tous qui va vers tous. Toutes les familles de la terre se béniront en toi. Donc la bénédiction, ce n'est pas simplement quelque chose entre Dieu et une personne. Ce n'est pas quelque chose d'exclusif. Ça se répand. Ça se communique à d'autres. Et jusqu'à toutes les familles de la terre. Mais qu'est-ce que cette bénédiction, excusez-moi l'expression, contagieuse ? J'allais dire pandémique, puisque c'est universel. Pandémique. La bénédiction de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est quelque chose qui se voit, qui est manifeste. C'est la réussite dans des récoltes, dans la fertilité, l'abondance, la richesse, une vie longue, des enfants, la paix. C'est toutes ces choses que le non-croyant va appeler la chance. Et le mot, justement, qui est proche de l'arabe, va être sécularisé dans le français, dans baraka. La réussite, la chance. Mais tout cela, l'Ancien Testament l'attribue à Dieu. Il est, lui, la source de toute bonne chose. Et c'est une idée qui a été reprise dans l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Donc la bénédiction de Dieu est en tout. Et on peut donc la voir, on peut la reconnaître en toute chose. Dès l'origine, Dieu a béni l'humanité. Dans Genèse chapitre 1, au verset 28, on va lire ces textes. Dieu les bénit, les questions de la création de l'humanité, hommes et femmes, et leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et un peu plus loin, en chapitre 5, il créa l'homme et la femme, ce rappel de la création, il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Le mot « homme » ici, c'est Adam. Au chapitre 9, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre ». C'est un rappel de Genèse chapitre 1. Donc vous voyez que clairement, la bénédiction de Dieu, c'est une fécondité, une multiplication pour accomplir le mandat de l'humanité qui consiste à administrer, à gérer la création terrestre en délégation du Créateur. En ce sens, on pourrait dire que l'humanité entière est bénie. L'humanité entière, malgré la malédiction du péché. La bénédiction, remarquez ici, elle est rappelée, elle est répétée après la chute, après Genèse 3, après la désobéissance, après la malédiction du péché. Et nous vivons dans un monde qui vit l'empreinte de cette malédiction du péché. Mais dans ce monde, la bénédiction de Dieu sur sa création, sur l'humanité, cette bénédiction de Genèse 1 va trouver un prolongement spécial, un accomplissement nouveau dans la bénédiction faite, posée sur Abraham. Abraham est béni de Dieu. Ceux qui bénissent Abraham sont bénis de Dieu. Son nom est une bénédiction pour bénir les autres. Et ainsi, toutes les familles de la terre trouveront la bénédiction en Abraham, dans sa descendance. En Genèse 3, donc, la malédiction du péché n'a pas vaincu. Il y a une espérance. La bénédiction de Dieu va trouver un chemin pour l'humanité tout entière. Et cette bénédiction à Abraham, elle va être réitérée à Isaac, à Jacob. La descendance est bénie. Le peuple de Dieu est béni. Ce que la Genèse appelle la bénédiction, c'est un fruit abondant. C'est le Dieu qui est source de toute vie, qui maintient la vie, source de toute croissance, de toute fertilité, de tout bien. Toute l'Écriture appelle Israël à reconnaître en Dieu seul la source de tout ce bien. Et dans un pays, vous savez, qui était dépendant de la pluie pour les récoltes, eh bien l'eau est représentée comme le symbole de bénédiction. Si tu passes dans Ézéchiel, au chapitre 34, verset 26, vous trouvez cette parole magnifique, « Je ferai d'elle, il est question des brebis du Seigneur, du peuple, hein. Je ferai d'elle et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps et ce sera une pluie de bénédiction. » une pluie de bénédictions. La plus grande des bénédictions nous est donnée dans le Lévitique au chapitre 26. Et là encore, ce texte énumère tout ce que le Seigneur veut déverser avec abondance sur son peuple. Alors, je n'ai pas mis le texte, je vais simplement vous le citer. Je vous enverrai des pluies en leur saison, la terre donnera ses produits, et les arbres des champs donneront leurs fruits. À peine aurez-vous battu le blé que vous toucherez à la vendange, et la vendange atteindra les semailles. Vous mangerez votre pain à satiété, vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera pas dans votre pays. Un peu plus loin, je me tournerai vers vous et je vous rendrai fécond, je vous multiplierai. Je maintiendrai mon alliance avec vous. Vous mangerez des anciennes récoltes et vous sortirez les vieilles pour faire place aux nouvelles. Une récolte n'attend pas une autre. Dieu énumère ce que veut dire sa bénédiction pour Israël. Et il termine par la plus importante. Et là, tu peux afficher, c'est au verset 11, « J'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura pas en horreur. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. » Voilà la plus grande des bénédictions. La présence de Dieu au milieu de son peuple. La présence de celui qui est la source de toute bénédiction. Qui est cette présence qui est la garantie de la bénédiction, c'est-à-dire d'un fruit abondant qui le glorifie. Et Paul nous dit que cette garantie, pour nous aujourd'hui, en Jésus-Christ, c'est l'Esprit de Dieu. En Christ, Dieu avec nous. Emmanuel, la venue du Fils de Dieu apporte une nouvelle dimension à cette bénédiction. Et cette nouvelle dimension est exprimée par l'apôtre dans ce texte qu'on a lu, et on peut l'afficher à nouveau. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. La bénédiction de Dieu est sur son peuple. Et Paul, dans l'épître aux Galates, fait explicitement le lien avec la promesse à Abraham. Je ne vous ai pas mis le texte, mais au verset 8 du chapitre 3, il dit « En fait, l'Écriture prévoyait que Dieu déclarerait les non-juifs justes s'ils avaient la foi. C'est pourquoi elle a annoncé par avance cette bonne nouvelle à Abraham. Tu seras une source de bénédiction pour tous les peuples. Ainsi, tous ceux qui font confiance à Dieu, comme Abraham lui a fait confiance, ont part à la bénédiction avec lui. » La bénédiction, c'est ce salut en Jésus-Christ. C'est échapper définitivement à la malédiction du péché et de la mort de Genèse 3. Un peu plus loin, dans le même chapitre de Galates, il écrit « Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous en prenant la malédiction sur lui à notre place. » Il est en effet écrit « Maudit à quiconque est pendu au gibet. » Et ce texte qui s'affiche, c'est « Jésus-Christ l'a fait pour que grâce à lui, la bénédiction d'Abraham s'étende aux non-juifs, à nous, et que nous recevions par la foi l'Esprit que Dieu avait promis. » Dans Galates 3, Paul reprend ces chrétiens qui sont tentés par l'obéissance, vous savez, obéissance aux rites, aux règles, au judaïsme. Pour être un bon chrétien, il faut être un bon juif. Est-ce que avoir droit à la bénédiction, ça passe par une obéissance à la loi? Après l'entrée dans le pays promis, il va se tenir une cérémonie. Le peuple d'Israël va, en obéissance au Seigneur, organiser une cérémonie sur les deux montagnes, Ebal et Garizim. Et le peuple devait répondre à la loi qui était annoncée, aux paroles de bénédiction et de malédiction, avec un engagement solennel à obéir, à se conformer à la loi. Et on sait ce que l'histoire de ce peuple nous rapporte dans l'Écriture. Dieu, dans sa grâce, n'a pas fait retomber systématiquement et automatiquement la malédiction sur la désobéissance du peuple. Il aurait été éliminé. Mais il fait preuve de patience, il fait preuve de pédagogie. Sa grâce est toujours à l'œuvre. Et même lorsqu'ils vont subir finalement les conséquences de leur faute, le jugement de Dieu vise une restauration, vise une rédemption. Jusqu'à cette attente qui est là dans ce texte de l'Ancien Testament, exprimé par les prophètes, l'attente du Messie, l'attente du Rédempteur qui va venir. Vous savez, l'Ancienne Alliance, ce n'est pas simplement l'expression d'un échec, l'échec de l'humanité à obéir par elle-même aux exigences de la sainteté de Dieu, mais c'est surtout cette attente imminente du secours de Dieu. Le Messie vient, la bénédiction promise à Abraham vient. Et en Jésus, il n'y a plus que la bénédiction, nous dit l'apôtre. Que la bénédiction pour ceux qui croient. Il n'y a plus de réponse aux malédictions et aux bénédictions dans le peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance. Il n'y a plus que la bénédiction en Christ, parce qu'il a donné sa vie à la croix et a pris la malédiction. C'est pour ça que le peuple de Dieu né en Christ est béni. Alors, peut-être, parfois, peut être difficile de concevoir que le peuple de Dieu est béni quand on subit encore les conséquences de ce mal, de cette malédiction du péché, avec la souffrance, la mort. La malédiction du péché à l'œuvre dans le monde. Et l'enfant de Dieu, l'Église, qui vit dans ce monde, subit cette réalité de la violence, de la maladie, dans un corps qui est destiné à la poussière. Et face à cela, l'Évangile exclut la résignation, puisqu'il nous annonce au contraire que nous sommes bénis. C'est-à-dire destinés à régner avec Christ au rétablissement de toutes choses, au jour où la création tout entière va expérimenter enfin la rédemption en Christ. Et le peuple de Dieu est destiné à cette réalité, à expérimenter cette réalité sans obstacle pour l'éternité. Cette bénédiction promise à Abraham. Et c'est là qu'est notre foi, c'est là qu'est notre espérance. Et c'est par la foi en Jésus-Christ que nous sommes bénis aujourd'hui, bénis de toute bénédiction spirituelle aujourd'hui. Quelles que soient les circonstances, quel que soit le mal que nous puissions traverser, le péché qui est à l'œuvre, on peut dire avec Job, le croyant souffrant, mon Rédempteur est vivant. Jésus-Christ l'a fait, nous dit l'apôtre, pour que grâce à lui, la bénédiction d'Abraham s'étende à nous, les non-juifs, pour que nous recevions par la foi l'Esprit que Dieu avait promis. L'Esprit de Dieu est là. Jésus a dit, il est avec nous et en nous. Il est à l'œuvre dans son Église. Et par lui, Christ prépare son Église, nous dit l'Épître aux Éphésiens. La venue de l'Esprit, c'est l'accomplissement de cette extension de la bénédiction sur tous. Nous vivons déjà la plus grande des bénédictions. Dieu avec nous, Dieu en nous par la foi. Donc, j'ai osé reprendre ce petit schéma, il n'est pas parfait, un petit schéma c'est jamais parfait, mais voilà à quoi on aboutirait. Comme Abraham le croyant, nous sommes bénis en Jésus-Christ. Et parce que nous avons reçu Jésus, nous bénissons Jésus. Les flèches, c'est la flèche, on bénit, hein. Et parce que nous sommes en Jésus et que nous sommes bénis et que Christ est béni de Dieu, nous sommes bénis par le Saint-Esprit qu'il a répandu sur son Église. Et parce que nous sommes bénis, eh bien nous ne pouvons pas faire autrement que de bénir tous les autres. Nous sommes dans ce triangle, dans ce schéma, intégrés dans ce schéma en Jésus-Christ, en devenant nous-mêmes les vecteurs, les moyens de la bénédiction de Dieu sur ceux qui nous entourent, sur ce monde. Alors bénir, c'est dire, c'est déclarer déjà le bien pour nos frères et sœurs. Et ça se fait toujours que en dérivé de ce que Dieu a fait, déjà fait. C'est faire comme lui, fait à sa suite. et par la foi dans ce que Dieu accomplit, dans ce que Dieu a accompli. En Christ, il n'y a plus de malédiction pour l'enfant de Dieu, alors il n'y a pas non plus de malédiction dans sa bouche pour les autres. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent, a dit le Seigneur. Et Paul a repris cette parole, il dit, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez, ne maudissez pas. La bénédiction universelle promise à Abraham dans sa descendance est accomplie dans la descendance de Jésus. Ce n'est plus un souhait, ce n'est pas un vœu, c'est une réalité puissante qui transforme les vies par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas simplement une observation, tu es béni, un constat face à l'œuvre que Dieu accomplit, mais c'est une réalité qui est en marche. Dieu est en train de bénir l'humanité à travers son peuple, né de Dieu en Jésus-Christ. Et il le fait à travers chacun d'entre nous, ses enfants.